ce soir, donc nous accueillons le professeur Laurence Edel qui va nous parler des biomatériaux. Donc il nous en parlera lui-même. Je donne sa biographie. Il est né en 1943. Il est docteur en médecine et chirurgien des hôpitaux et professeur de médecine depuis 1979. Son statut actuel, c'est chirurgien orthopédiste, professeur à l'université Paris 7. Il est chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris et il dirige l'unité de recherche du laboratoire de recherche orthopédique dépendant du CNRS, département associant aussi l'université de Paris 7. Il a mené de front durant sa carrière les activités chirurgicales et les activités de recherche. En ce qui concerne les activités chirurgicales, il a développé des techniques de prothèse totale de la hanche en céramique. Il a par ailleurs travaillé sur la mécanique osseuse et en particulier le remodelage osseux en fonction des contraintes. Bon, il vous en parlera certainement beaucoup mieux que je peux le faire. Il est membre de nombreuses associations savantes et il est des publications, donc il est auteur de publications scientifiques dans des revues selon l'expression consacrée à comité de lecture, et il est membre du comité de lecture du Journal of Bone and Joint Surgery, journal de chirurgie des os, de l'os et des articulations. Voilà. Je vais lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite il répondra à vos questions. Merci.
Merci Monsieur Michaud. Moi je préfère peut-être parler debout. Donc je dois vous parler des biomatériaux. Donc c'est un domaine assez vaste comme vous allez le voir. Et je vais essayer de vous initier donc à ce domaine un peu particulier. J'associe aussi à cette conférence mes collaborateurs au laboratoire, ainsi que mes collègues cliniciens. Alors, les biomatériaux, qu'est-ce que c'est? D'après la définition de Chester en 91, c'est tout matériau non vivant utilisé dans un dispositif médical et visant à remplacer ou traiter un tissu, un organe ou une fonction. Donc c'est clair, c'est un matériau non vivant, donc matériau artificiel, et on parle toujours d'une durée de contact supérieure à 3 semaines, ceci pour éviter d'y associer, les seringues et les aiguilles, par exemple, qui sont en contact avec le corps humain, mais pour des périodes extrêmement brèves, de même que les cathéters qui restent en place pour seulement quelques jours. Alors déjà, une petite notion, qu'est-ce que c'est qu'un biomatériau, qu'est-ce que c'est qu'un biomatériel ? Alors, par définition, donc on remplace une fonction ou un organe. Il faut, on associe souvent cette notion à biomatériaux. Donc, ça comporte, c'est une partie constituante d'un biomatériel. Mais il faut dire que dans le phrasé habituel, on a l'habitude de mélanger ces deux termes. Alors, il faut bien différencier ces matériaux des greffes, ce qu'on appelle les autogreffes ou bien les allogreffes. Autogreffe, c'est lorsqu'on prend la greffe sur le sujet lui-même. Allogreffe, c'est lorsqu'on prend la greffe sur un autre sujet. Alors, ces biomatériaux aussi, pour commencer à rentrer dans le sujet, ils peuvent être inertes ou au contraire bioactifs. Et certains matériaux bioactifs vont comporter toutes ces substances sur lesquelles on va positionner des cellules, en général des cellules autologues, c'est-à-dire des cellules du sujet lui-même, pour remplacer donc, là encore, un organe ou un tissu. Alors, il y a de multiples applications, donc on va les passer en revue, mais évidemment, je ne vais pas pouvoir vous faire une conférence sur l'ensemble de ces applications. Donc, il faut se souvenir que ces biomatériaux peuvent être utilisés pour remplacer des éléments du système cardiovasculaire, par exemple les valves cardiaques, le cœur artificiel, ça en fait partie, même s'il est peu utilisé actuellement, les stents, qui sont ces petits tuyaux qui permettent de maintenir un vaisseau ouvert, les prothèses vasculaires, donc pour remplacer des vaisseaux lésés, orthopédiques, ça vous allez voir qu'on va en parler un petit peu plus, donc je passe, urinaires, les sphincters artificiels, les membranes de dialyse qui font partie du domaine des biomatériaux. Pour l'œil, il y a les cristallins artificiels, la vitrée, dentaires, les implants dentaires, vous avez tous entendu parler, en otorhinolaryngologie, les osselets de l'oreille moyenne, et en chirurgie plastique, les prothèses mammaires, les prothèses péniennes, les prothèses cutanées. Donc vous voyez que c'est un domaine extrêmement vaste et cette étendue des domaines explique pourquoi il y a aussi de très nombreux matériaux impliqués. Donc il va y avoir à la fois des matériaux métalliques, en particulier surtout des chromes cobalt, des aciers ou des titanes sont les principaux métaux utilisés, problème des matériaux plastiques, comme le téflon, polyéthylène, les polyuréthanes, les silicones, des matériaux composites, en particulier les carbone-carbone, il y a aussi les carbone-époxy, les céramiques, l'alumine, L2O3, la zircone, ZrO2, les phosphates tricalciques, les bioverts. Et puis, il y a les matériaux d'origine naturelle qui sont utilisés comme biomatériaux, le collagène, le corail, la nacre, les eaux modifiées, etc. J'en oublie certainement, mais je ne peux pas être exhaustif. De très nombreux produits ont pu être utilisés ou sont utilisés comme biomatériaux. Alors, il y a de nombreux aspects à ce domaine. Il y a des aspects, d'abord, scientifiques. On va essayer d'insister là-dessus. On est à l'Université de tous les savoirs, donc je vais quand même essentiellement m'intéresser à l'aspect scientifique. Alors, il y a un aspect qui est là très net et que vous avez tous senti, c'est l'interdisciplinarité. Pour parler de ces biomatériaux, il va falloir avoir des compétences à la fois en chimie, en mécanique, en ingénierie, en médecine, en chirurgie, en biologie. Enfin, vous voyez que c'est donc particulièrement interdisciplinaire. Et puis, il y a les problèmes de, le principe de précaution, puisqu'on va mettre en place ces matériaux dans des individus vivants. Donc, il faut s'assurer de la sécurité de ces produits. Donc, il faut insister sur les tests prédictifs et les aspects réglementaires. On essaiera d'envisager ces différents domaines. Alors, les aspects économiques, bien sûr, à l'heure où il faut payer ces soins et donc ces matériaux. On va voir que d'un côté, il y a les industriels qui peuvent en vivre, et puis d'un autre côté, les organismes qui financent et qui, eux, je ne dirais pas qu'ils en meurent, mais enfin, ils doivent supporter les coûts de ces matériaux. Alors, quelques chiffres, pour avoir une idée, eh bien, en France, on estime à peu près à 3,2 millions de personnes les personnes qui sont porteurs d'un biomatériau. Alors, c'est un marché estimé en France à quelques 10 milliards de francs, le marché mondial étant estimé à quelques 200 milliards de francs. C'est bien sûr un coût pour les dépenses de santé, un coût important. Et puis, il faut aussi comprendre qu'en cas d'échec, si le biomatériau doit être remplacé, cela va entraîner donc une réintervention. Donc, ça entraîne non seulement un pretium doloris, le fait d'être réopéré, bien sûr, c'est extrêmement désagréable et préjudiciable, mais surtout la réintervention est bien plus chère que le coût lui-même du biomatériau. Un biomatériau qui vaudrait 300 francs, mais qui, en cas de faillite, impose une réintervention, ça va faire 12 jours d'hospitalisation, etc. Enfin, vous imaginez tout de suite le surcoût formidable que cela peut entraîner. Alors, il y a des exigences communes. La biotolérance, c'est un terme extrêmement vague, mais qui simplement veut dire que le matériau, une fois implanté, sera accepté par l'organisme. Il n'y aura pas de rejet. Enfin, on dit rejet, ce n'est pas un terme scientifique, en fait, mais c'est un terme admis. La biofonctionnalité, ça, c'est un peu plus difficile à comprendre. Ça veut dire que le biomatériau implanté va répondre à ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est ça, la biofonctionnalité. On attend de lui une valve cardiaque, on attend d'elle qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme pendant des millions de fois jusqu'à ce que le patient décède de mort naturelle au bout de quelques dizaines d'années, eh bien, c'est ça la biofonctionnalité. Et ça, bien sûr, de façon pérenne, puisque une fois introduit, il n'est pas question de le changer. Ça, c'est tout, donc, toute l'exigence de ce domaine. Alors, quelles sont les contraintes du vivant? Donc, on met ce biomatériau, donc artificiel, dans un organisme. Alors, le vivant, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un peu complexe. D'abord, il va y avoir ce qu'on appelle la tolérance biologique, c'est-à-dire qu'il faut que les tissus tolèrent ce produit. Il faut aussi que, non seulement qu'ils tolèrent le produit, mais ses constituants, parce que les produits n'existent pas comme ça, ils ne sont pas purs. Il y a toujours des constituants, il y a une façon de le fabriquer. Il y a des catalyseurs, enfin un certain nombre de substances qui ont été utilisées pour sa mise en œuvre, et donc il faut aussi qu'il tolère ses constituants. Et puis il faut qu'il tolère ses produits de dégradation, on verra tout à l'heure le problème des débris d'usure des prothèses, c'est tout à fait essentiel. Et puis il faut qu'il y ait une adaptation mécanique, on met un système qui n'est souvent pas déformable de la même façon que les tissus alentours, il va falloir donc que ça s'adapte. Et vous allez voir que ça c'est un problème aussi extrêmement complexe. En plus, il faut bien sûr qu'il résiste aux contraintes, et les contraintes mécaniques du vivant sont très très importantes. Une hanche, on le reverra tout à l'heure, mais une hanche, ça, à chaque pas, ça supporte 3 à 4 fois le poids du corps du sujet. Vous voyez, 3 à 4 fois le poids du corps, 70 kg, multiplié par 3, 210 kg, et c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce qui va se passer à l'interface entre ce biomatériau et le tissu vivant? Bon, et là aussi, eh bien, il peut y avoir des problèmes à cette interface. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, le biomatériau, lui, une fois qu'il est implanté, il ne peut que se dégrader. C'est son évolution normale. Vous laissez un matériau sur une table, eh bien, forcément, ça va se dégrader. Alors, pour les métaux, c'est surtout la corrosion. Les plastiques, ça vieillit. et puis la détérioration mécanique de débris, fissures, fractures des matériaux. Et puis l'organisme autour, il va se modifier. Alors cette modification, elle peut être double, positive si vous voulez ou négative. Alors positive, eh bien, c'est que les tissus vont s'adapter. Il y a un nouveau produit là qui entraîne des contraintes variées, enfin changées si vous voulez, à l'intérieur du tissu. Eh bien, autour, les tissus vont se modifier en fonction de cette introduction. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un nouveau régime des contraintes et donc il va y avoir une adaptation. Ou bien, eh bien, l'organisme va se modifier, mais de façon négative. Il va y avoir ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, une mort cellulaire, et cela peut entraîner des toxicités locales ou générales. Bon, c'est l'écharde, vous avez tous connu ça, quand vous mettez une écharde sous la peau, on pourrait dire que c'est un biomatériau tant que c'est toléré, mais en général, ce n'est pas bien toléré, et ça finira par donner une goutte de pus et par être évacué. Alors, les problèmes fondamentaux de ce que ça pose, eh bien, d'abord, c'est la question de l'interface. Qu'est-ce qui se passe à l'interface? Est-ce que c'est stable? Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Enfin, c'est ce qu'on aimerait parfois. Ou bien, est-ce que c'est actif? Donc, il se passe quelque chose. On peut parfois souhaiter qu'il se passe quelque chose, que ça s'accroche, par exemple. Ou bien, on peut souhaiter qu'il ne se passe rien. Et ça, ça dépend des applications. Alors, il y a aussi différentes échelles. Si on veut réfléchir, eh bien, les différentes échelles des interfaces, ça peut aller de l'espace, enfin, de l'échelle ionique, à l'échelle moléculaire, cellulaire, tissulaire ou anatomique. Et à chacune de ces échelles, il y a une façon d'envisager les choses de façon variée. Alors, quels sont les outils? On a des outils pour étudier tous ces phénomènes-là. Eh bien, ces outils sont assez multiples. Alors, sur le plan biologique, d'abord, regardons les outils biologiques dont on dispose. Eh bien, on peut d'abord simuler les milieux vivants. Alors, j'ai mis SBF, ça veut dire Simulated Body Fluid. Ça veut dire simplement, on prend le produit biomatériaux, on le met dans un liquide qui représente un peu les liquides biologiques et puis on va regarder ce qui se passe. Bon, ça, c'est la simulation la plus simple. Et puis, il y a des simulations plus complexes, comme par exemple les cultures cellulaires, ce qu'on appelle les travaux in vitro. On peut faire appel à des cellules comme des fibroblastes, ou des cellules endothéliales, des ostéoblastes. On peut faire appel à des cellules de plus en plus spécialisées, étudier le devenir de ces cellules au contact du biomatériau, au contact de ces produits de dégradation, et à partir de là, inférer sur ce que ça va donner une fois qu'on va vraiment l'implanter chez le vivant. En un moment, il faudra passer, pour étudier surtout la biofonctionnalité, pour voir si ce produit répond bien à ce qu'on attend de lui, à des modèles animaux. Alors, il y a des modèles, soit des petits animaux, comme les rongeurs, soit parfois il faut passer à des gros animaux, et on a tendance actuellement à utiliser des animaux comme les brebis, par exemple, qui sont des animaux d'élevage que vous connaissez tous. Alors, chez l'homme, à un moment aussi, on passe à l'homme. Et l'étude chez l'homme, eh bien, c'est le suivi clinique, c'est de savoir que devient l'individu une fois qu'on lui a implanté un biomatériau. Donc, il faut le suivre, soit cliniquement, radiologiquement, etc. On peut faire un certain nombre de tests pour savoir si le biomatériau répond bien à l'attente. Alors, les outils maintenant de la mécanique aussi, il y a un certain nombre de tests, comme n'importe quel matériau. On va réaliser des tests. Bon, j'en ai mis quelques-uns ici. Il y a par exemple les tests à la rupture, ou bien il y a les bancs d'essai, par exemple pour les vaisseaux artificiels, on va étudier les écoulements, on va étudier l'usure. On peut avoir des simulateurs, simulateurs articulaires, simulateurs vasculaires, etc. Donc ça, ce sont les ingénieurs qui travaillent sur ces produits. Et puis derrière tout ça, une fois qu'on a fait des simulations et des mesures, on peut utiliser des outils mathématiques, des modélisations mathématiques. Donc on va étudier les contraintes, les déformations, les interfaces. Enfin, on peut étudier tout ceci avec des outils mathématiques, mais à partir du moment où déjà il y a des mesures, on a rentré des données. Sinon, cela ne signifie pas grand-chose. En fait, il y a une seule vraie sécurité, c'est l'implantation chez l'homme. C'est-à-dire qu'un produit qui a été implanté chez l'homme pendant 20 ans et ça marche bien, eh bien, on peut implanter plus d'hommes avec, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sait que là, on a une réelle sécurité. C'est finalement ça qui nous donne la vraie réponse. Le suivi à long terme, bien sûr, il faut savoir suivre tous les patients implantés et savoir donc s'il y a des problèmes, s'il y a des échecs. Donc pour cela, il faut recueillir les données, connaître donc les résultats, les échecs, faire ce qu'on appelle des survies actuariales, qui est une technique mathématique, enfin statistique, pour savoir que même si un certain nombre de personnes sont perdues de vue, on fait une sorte de sondage parmi ceux qui restent, et ça nous permet d'avoir les chiffres réels, en fait, projetés, si vous voulez, de la survie du matériau. Et puis souvent, quand on parle de biomatériaux et qu'on veut introduire, par exemple, un nouveau biomatériau, on va en général le comparer à un produit plus ancien que l'on connaît bien. C'est ça aussi la façon de travailler habituelle dans ce domaine. Alors, bon là, je vous ai parlé de quelques généralités. Bon, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails, surtout dans des domaines que je connais un peu mieux, comme les biomatériaux de l'orthopédie. Et je vais vous montrer à partir de ces exemples-là comment ça se passe dans la pratique. Alors, les biomatériaux pour l'orthopédie. Alors, il y en a un certain nombre. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez qu'il y a des biomatériaux pour le traitement des fractures, des plaques, des vis, des broches. Vous voyez, ce sont des matériaux dits temporaires, puisque ce qu'on attend d'eux, c'est simplement que la fracture consolide et ensuite on peut les retirer. Il y a les prothèses. Alors, ça, ce sont des biomatériaux, disons, permanents, puisqu'on a, une fois qu'on a mis une prothèse articulaire ou ligamentaire, il faut qu'elle dure toute la vie du sujet. Il n'est pas question de réopérer. Et puis, il y a des fois des manques osseux dus à des fractures, des tumeurs ou des infections, ou bien dans des infections du rachis comme les scolioses, on peut être amené à mettre des matériaux. Alors, je ne vais pas non plus vous parler de tous ces produits, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Je vais vous parler de deux types de produits, les prothèses, en particulier la prothèse de hanche, et le problème un peu particulier des remplacements osseux en cas de tumeur ou de fracture complexe. Alors, les prothèses articulaires. Vous voyez ici quelques exemples. Donc, ça, c'est la prothèse de hanche. Et puis ça, c'est une prothèse du genou, pour mémoire, pour montrer à peu près à quoi ressemble une prothèse du genou actuellement. Alors, la prothèse de hanche avec une tige, on appelle la tige dans le fémur, tige fémorale, le couple de frottement, c'est-à-dire les deux parties qui vont frotter, soit en alumine contre du polyéthylène, soit en métal contre du polyéthylène, et puis les différentes tailles, puisque bien sûr, il faut s'adapter à l'anatomie de chacun. Alors, regardons un peu comment ça se passe, le problème d'une prothèse articulaire. Il y a plusieurs fonctions. Il y a d'abord la fonction surface frottante. Alors, je vous ai déjà dit qu'il y avait plusieurs matériaux, que vous voyez ici. Alors, il y a le problème du support mécanique, vous avez là, qui sont, donc les supports mécaniques sont des métaux, donc soit des chromes cobalt, des titanes ou des aciers. Et puis, il y a le problème de l'ancrage osseux, comment faire tenir de façon définitive ce matériau artificiel dans de l'os, qui est un matériau vivant. Alors, il y a plusieurs systèmes. Soit on utilise du ciment, il y a du ciment acrylique, c'est ce qu'on appelle les prothèses cimentées, ou bien on met en place des prothèses sans ciment, soit parce qu'il y a des surfaces métalliques poreuses et l'os va pénétrer à l'intérieur des porosités de la prothèse, et on peut y associer des revêtements d'hydroxyapatite, HAP, hydroxyapatite, qui est obtenu par projection plasma et qui va accélérer la repousse osseuse au contact. Alors, le problème des tiges, eh bien, c'est d'essayer de réduire les fractures de fatigue. Il faut mettre donc des matériaux extrêmement résistants qui vont durer toute la vie du sujet. Je vous rappelle, 3 fois le poids du corps multiplié par toute la vie, sachant qu'on marche en moyenne 1 à 2 millions de pas par an pour quelqu'un qui a une activité tout à fait disons moyenne. Donc, un des problèmes, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'effet bouclier, c'est-à-dire que si la rigidité de la prothèse est trop importante, l'os, qui lui est très souple, aura du mal, il va retenir ça comme quelque chose de très rigide, il va le sentir, hein, et donc ça posera un problème. Donc, il faut toujours savoir adapter la forme et le matériau à l'os. Et puis, il y a le problème du couple de frottement, et on va voir que c'est un des problèmes du couple de frottement, ce sont les débris d'usure. Donc, on va chercher à réduire ces débris d'usure pour éviter les réactions à corps étranger, les réactions de l'organisme à ces débris. Et puis, on va essayer d'assurer la stabilité à très long terme de cette interface os-implant. Donc, on voit finalement que cette prothèse articulaire, c'est un système avec un certain nombre de fonctions, la fonction support mécanique, la fonction ancrage osseux et la fonction tribologique, la tribologie étant, comme vous le savez sûrement, la science du frottement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met en place donc, un implant dans l'os? Alors, sur le côté biologique des choses, et vous avez le côté biologique, côté biomatériaux. Alors, vous allez voir un peu comment ça peut se construire. Alors, tissu biologique, c'est quoi? C'est un milieu corrosif. Hein, c'est un milieu profondément ionisé, soumis à des contraintes mécaniques élevées. Donc, c'est pas de bonnes conditions pour faire travailler un métal pendant toute la vie. Alors, le biomatériau lui-même, il va se dégrader. Je vous l'ai dit, on le mettait en place, il ne peut que se dégrader. Donc, la dégradation, les différentes. Elle peut être chimique, elle peut être électrochimique, enzymatique, cellulaire. Et puis, il peut y avoir de dégradation mécanique par usure, rupture ou fatigue. Alors, il peut y avoir des réactions, soit de biocompatibilité ou d'incompatibilité, en fonction de ça. Alors, une des réactions de biocompatibilité, c'est le remodelage osseux adaptatif, c'est-à-dire que les contraintes étant différentes, eh bien, l'os va s'adapter. Si vous voulez, c'est comme si on avait un système, comme vous imaginez un pont sur lequel on fait passer des cyclistes ou on fait passer des camions. Eh bien, l'os, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on lui fait passer des cyclistes, ça devient petit. Et puis, si on fait passer des camions, ça grossit. C'est ça, le remodelage osseux adaptatif en fonction des contraintes. Alors, le matériau, lui, il n'est pas adaptable. Donc, il va se dégrader. Donc, il va y avoir des produits de dégradation. Et tout va être dans cette adaptabilité à ces produits de dégradation. S'il n'y en a pas trop, ça va bien se passer. S'il y a trop de produits de dégradation, eh bien, il y aura des réactions et ça donnera lieu à des échecs. Alors, de plus, l'introduction du biomatériau, donc, comme je vous l'ai dit, modifie le régime des contraintes mécaniques physiologiques. Et donc, c'est tout ce problème entre l'adaptation de l'os d'un côté et la modification des régimes qui va expliquer si la modification tissulaire de l'interface va se faire correctement ou bien si ça ne tiendra pas. Et donc, il y aura ce qu'on appelle un décèlement, enfin, ce que les patients appellent souvent ça, j'ai rejeté ma prothèse ou je ne l'ai pas tolérée. En fait, nous, on appelle ça un décèlement, c'est-à-dire que ça ne tient plus. Alors, voyons le problème du couple de frottement. Je vous l'ai dit, il peut y avoir du métal contre du polyéthylène, c'est un plastique, donc métal contre plastique. Il peut y avoir de l'alumine contre de l'alumine, ce sont deux céramiques. Alumine contre polyéthylène ou zircone contre polyéthylène sont les couples actuellement utilisés. Alors, voyons un peu, là, vous avez des vues hyperopératoires. Je suis désolé, hein, mais enfin, c'est un peu spectaculaire, si vous voulez. Voilà ce qui peut se passer quand on réopère des gens quelques années plus tard, quand ils ont eu des prothèses en métal-métal, donc on a des débris assez noirâtres comme ça. Eh bien, ces débris noirâtres sont en fait des réactions, quand on les regarde au microscope, on va avoir des réactions de ce type-là, avec beaucoup de débris noirâtres dans des cellules qui sont des cellules manifestement inflammatoires. D'autres fois, vous avez des cellules géantes, et ça, en fait, c'est un débris de polyéthylène, voilà, donc là, c'est du polyéthylène, et d'autres fois, en lumière polarisée, vous avez ces aspects-là, avec beaucoup de débris de polyéthylène qui sont dans des cellules qu'on appelle des macrophages, qui sont des cellules qui sont là pour résorber les matériaux étrangers et les éliminer. Alors, pour vous montrer un exemple, je suis désolé, je crois qu'il y a quelques diapos de temps en temps en anglais, hein, excusez-moi, mais je n'ai pas remarqué. Alors, vous avez par exemple, voilà un exemple assez typique, voilà, une jeune femme, elle avait 29 ans, donc elle a été opérée d'une prothèse totale de hanche tout à fait classique, ça c'est en 89. 10 ans plus tard, elle a des douleurs et elle vient nous voir parce que ça ne va pas. Et vous voyez que la tête a pénétré. Ici, c'est du plastique, donc vous ne le voyez pas en radiologie. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus, pratiquement plus de plastique, c'est-à-dire qu'elle a usé toute la partie supérieure de sa prothèse. Donc, tout son problème à elle, vous voyez, ce sont ces petits aspects-là ici. Et là, il y a des aspects noirs. Pour ça, ce sont des réactions à polyéthylène. Donc, il faut la réopérer et lui mettre en place, cette fois, une prothèse avec un couple en céramique. Alors, il y a parfois des usures catastrophiques. Là, vous avez des usures sur du téflon. Là, c'est des usures lorsque le polyéthylène, comme ça, s'est cassé. Vous pouvez avoir l'alumine qui pénètre à l'intérieur du métal et qui l'a usé totalement ici. Ou bien là, ce sont des prothèses qui étaient faites avec du chrome. Enfin, c'était... Bon, il y a des fois des tentatives un peu curieuses. Enfin, ça s'est fait surtout par le passé. Hein. Ça, on n'a plus trop le droit de le faire, heureusement, maintenant. Mais ça avait donné lieu aussi à des usures tout à fait catastrophiques. Alors, sur ce couple alumine-alumine sur lequel on travaille depuis plus de 20 ans, il a un certain nombre de caractéristiques intéressantes. D'abord, il diminue le nombre de débris d'un facteur 1000. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça réduit donc la quantité de ces produits qui partent dans l'organisme et qui peuvent donner lieu à des réactions. Il autorise donc une activité très soutenue. Donc les gens qui ont des prothèses faites de ce matériau peuvent courir, enfin faire du sport sans aucune limitation. Ça permet d'implanter des sujets qui sont même très jeunes, s'ils en ont besoin, bien sûr. Et il n'y a pas de limitation d'activité. Alors voilà quelques exemples. Une jeune femme qui avait été opérée d'une fracture du bassin. Donc on reconnaît la fracture du bassin ici parce qu'elle avait donc une plaque et des vis et la tête était détruite, enfin ce qu'on appelle une nécrose de la tête après la fracture. Donc 2 ans plus tard, elle avait des douleurs, elle pouvait difficilement marcher. Donc on lui a mis une prothèse à cette époque-là. Et vous voyez, 12 ans plus tard, elle a une hanche qui n'a pas bougé du tout, qui est restée absolument impeccable, elle est indolore, elle a eu des enfants, elle peut faire du sport, donc elle n'a aucune limitation dans sa vie de tous les jours. Alors là, vous avez des exemples des prothèses que l'on met actuellement, donc ce sont des prothèses maintenant sans ciment, vous voyez là, avec recouvert d'hydroxyapatite, c'est pour ça qu'elles sont blanches, et vous avez là deux couples, donc céramique-céramique, qui tient dans une cupule en titane, donc qui rentre aussi dans le bassin. Vous avez la cupule qui est dans le bassin, le couple alumine et la prothèse, là vous avez l'exemple chez un jeune garçon de 16 ans, donc on a opéré il y a plus d'un an, donc maintenant n'a plus de douleur et qui peut courir et même il joue au football. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, on a un certain nombre d'outils. Alors, je vous ai dit les survies actuarielles, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. On étudie les échecs, et puis on étudie les tissus retirés, hein, lorsqu'on fait des réinterventions, lorsque malheureusement on est obligé de réopérer les sujets, eh bien on prend les sujets et on va faire un certain nombre de dosages sur ces tissus, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, à comprendre ce qui se passe. Alors voilà ce que c'est que les courbes actuarielles. Alors bon, je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça, ce sont essentiellement les Suédois qui ont fait ça, c'est pour ça que ça s'appelle le registre suédois. Donc en prenant toutes les prothèses de hanche implantées en Suède depuis 20 ans, ils arrivent à connaître ce qu'on appelle la courbe de survie, c'est-à-dire qu'ils savent, vous voyez, qu'à là, à 18 ans, ils ont 80% de prothèses toujours en place. Ça veut dire que vous dites à votre patient, monsieur, quand il vous demande ma prothèse, elle va tenir combien de temps, eh bien, vous lui dites, eh bien, vous avez 80% de chance d'avoir toujours votre prothèse au bout de 18 ans. C'est ça que ça veut dire, ces courbes-là. Alors, ce qu'ils ont regardé, par exemple, ça c'est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans le temps, c'est-à-dire que ça, c'était vrai pour les prothèses qui étaient implantées il y a 20 ans, puisqu'il faut avoir 18 ans de recul pour le savoir. Au fur et à mesure qu'on progresse, ça, c'est des prothèses implantées plus récemment, et là, encore plus récemment. Ça veut dire que, simplement en jouant sur la qualité des produits et sur la qualité aussi des équipes chirurgicales et d'un ensemble, on améliore, vous voyez qu'on améliore la durée de vie des prothèses, et ceci est tout à fait significatif. Alors, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que par contre, si on prend maintenant la catégorie des patients, vous voyez, qui sont plus jeunes que 55 ans, donc qu'on considère que ce sont des gens relativement jeunes pour avoir des prothèses de hanche, hein, avant 55 ans, et on leur met toujours des couples métal-polyéthylène, eh bien là, ça n'est plus vrai. Vous voyez que là, chez les hommes, eh bien on voit qu'il n'y a plus d'amélioration avec le temps. C'est-à-dire que non seulement, vous voyez qu'à 10 ans, il n'y a plus que 75% de gens qui ont leur prothèse en place, mais qu'en plus, il n'y a aucune amélioration, c'est-à-dire qu'on a beau améliorer la qualité technique et autres, et toutes les qualités, tout, rien ne se passe. Donc en fait, tant qu'on garde le métal et le polyéthylène, il y a toujours une dégradation importante. Alors bon, là, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut doser les produits. Par exemple, on dose les prostaglandines E2, qui sont des marqueurs de l'inflammation tissulaire. Et lorsqu'on compare dans ces tissus, donc retirés lors des interventions, les prostaglandines trouvées dans les couples métal-polyéthylène ou dans les couples alumine-alumine, vous voyez que significativement, il y a moins de prostaglandines dans ces couples-là. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'inflammation autour des couples alumine qu'autour des couples métal-polyéthylène. Alors on identifie aussi les débris, il ne faut pas croire que ce soit simple, enfin ça fait appel à des techniques un peu particulières pour savoir à quoi ressemblent ces débris. Là vous avez du polyéthylène, de l'alumine, de la zircone, du titane, et on arrive comme ça à quantifier ces débris et à savoir exactement qui fait quoi, quel est le débris le plus actif ou quel est le débris qui va donner le plus de problèmes. Alors, quelle est l'action des macrophages? Donc, les macrophages, ce sont ces cellules qui sont dans l'organisme, c'est un peu les éboueurs, si vous voulez, ils viennent essayer de nettoyer les débris. Alors, on regarde un peu quelle est l'activité des macrophages en fonction de ces débris. Alors, on s'est rendu compte déjà que par rapport à ces débris, en fait, il y a un certain nombre de paramètres qui vont jouer un rôle. Il y a le nombre des débris, leur taille, hein, et plus les débris sont gros, moins ils seront intracellulaires, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans la cellule, on les trouvera à l'extérieur. Il y a aussi d'autres éléments comme l'énergie de surface des débris, leur composition chimique, leur forme, leur surface spécifique, leur forme est très importante. Mais on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est qu'à réactivité identique, c'est le taux de particules qui est le paramètre fondamental. C'est-à-dire que plus il y a de particules, plus il y aura des réactions. Donc c'est ça, en fait, l'élément important, c'est le nombre de particules à composition chimique identique. Alors encore quelques exemples cliniques, comme ça c'est pour détendre l'atmosphère, si je peux dire. Pas trop. Donc ça, c'est un homme de 24 ans qui avait une fracture du cotyle qu'on opère 2 ans plus tard, qui est raide et douloureux. Donc là, pardon, là, vous avez la radio. Vous voyez, 24 ans, bon, il faut imaginer, enfin, quand on a un peu l'habitude, on voit que la tête est totalement luxée, enfin, sortie du cotyle. Donc ça donne ça quand on regarde pendant l'opération. Et vous voyez que ça donne ça une fois qu'on l'a reconstruit. Donc là, il faut faire une greffe. Là, c'est ce que vous voyez ici, une greffe osseuse en prenant d'ailleurs sa tête à lui. On utilise ça, c'est une autogreffe qui va fixer par des vis, puis on fixe le cotyle, et voilà l'aspect que ça donne sur les radios. Un autre exemple aussi, pour ne pas rester dans les choses trop tristes, donc ça c'était un monsieur qui avait une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie très en raidissant, très douloureuse, avec une destruction totale de ses hanches. Et là, on l'a opéré donc, il y a plus de 2 ans. Maintenant, il peut courir, il a une fonction tout à fait normale. Il est bien entendu très heureux. Donc, toutes ces recherches, enfin, tout ce qu'on fait là, bon, ça a une utilité, hein, parce que ça permet quand même à ces gens-là de retrouver leurs capacités précédentes. Alors, pour finir ce problème des prothèses, il faut savoir qu'il n'y a pas que les couples de frottement qui posent problème. Il peut y avoir aussi les surfaces métalliques. Là, vous avez des exemples de frottement des surfaces sur le ciment ou de métal qui soit au niveau du cône morse, enfin, la fixation de la tête en métal sur le cône. Il peut y avoir aussi des zones de corrosion et qui vont donner lieu à des réactions. Là, vous avez une image d'un patient qui a été opéré en 86, très bien, il n'y a aucun problème. Et presque 9 ans plus tard, on voit apparaître ces images-là. C'est ce qu'on appelle de l'ostéolyse, et c'est lié au frottement de la tige sur le ciment. Et ça donne lieu, là encore, à des débris, des réactions encore étrangères. Donc ces débris, eux, ne proviennent pas du couple même, mais proviennent de ce frottement ciment-tige fémorale. Alors, on a eu l'impression jusqu'à présent qu'on oubliait un petit peu que ce matériau osseux, c'est vivant. Eh bien non, il faut s'en souvenir. Donc ce matériau osseux, ça comporte des cellules. Ces cellules vivent, elles meurent, elles vivent, et elles permettent ce remodelage. Alors quelles sont ces cellules? Il y en a 3 types. Il y a les ostéoblastes, qui sont les cellules qui fabriquent l'os, que vous voyez ici. Il y a les ostéoclastes, qui sont les cellules qui détruisent l'os. Il y a en permanence un équilibre entre destruction et apposition osseuse. Et à 50 ans, on n'a pas le même os qu'à 20 ans. On n'est plus constitué du même matériau. Et vous avez ici les ostéocytes, qui sont l'homéostasie, enfin la partie rémanente de l'os, mais qui, là aussi, vont être attaqués par les ostéoclastes. Et ensuite, l'ostéoblaste va arriver, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le remodelage osseux adaptatif. Alors, quand on a une perte osseuse, eh bien, il va falloir remplacer l'os par un matériau que ces cellules vont reconnaître, et c'est comme ça que ça se passera bien. Alors voyons un peu comment ça se passe, ce remplacement osseux. Donc, deuxième exemple que je voulais prendre. Alors pour remplacer une paire de substances osseuses, on fait appel soit à des allogreffes, c'est-à-dire des greffes prises en fait sur des cadavres hein, qui sont décédés, soit on prend des phosphates tricalciques, qui sont donc des tissus et des matériaux artificiels à base. Et soit on peut prendre des matériaux naturels que l'on va utiliser après stérilisation, comme le corail par exemple ou la nacre. Et puis on peut associer donc ces produits à des cellules. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Soit donc ces produits servent de support à des cellules, en général des cellules autologues, donc des cellules du patient lui-même. Alors on va regarder un petit peu ça. Alors déjà ça c'est pour vous montrer un peu l'ensemble de ces produits avec. Là, vous avez ce qu'on appelle l'ostéoconduction, c'est la capacité du matériau à attirer l'os à sa surface, ostéoconduction. Et là, ce sont les propriétés mécaniques primaires du matériau, parce qu'évidemment, pour remplacer de l'os qui est quand même très résistant, il faut que l'os, enfin que ce matériau résiste comme de l'os. Donc vous avez ça en diagramme, et vous avez ici les matériaux qui ont donc des bonnes propriétés mécaniques, là des mauvaises propriétés mécaniques, et là des bonnes propriétés d'ostéoconduction. Alors vous voyez que le corail est assez intéressant parce qu'il a de très bonnes propriétés d'ostéoconduction et il a aussi de bonnes propriétés mécaniques primaires. Donc on a pas mal travaillé sur le corail. Alors qu'est-ce que c'est qu'un matériau hybride? Matériau hybride, c'est l'association donc d'un support à des cellules. Alors vous allez voir un petit peu les expériences que l'on fait au laboratoire. Ici vous avez un os stylisé avec une paire de substances, on a retiré un bout. Et puis on va essayer de le remplacer par un support, plus des cellules cultivées, c'est ce qu'on va appeler un matériau hybride, et on va essayer donc de remplacer cette paire de substances. Alors vous avez sur ce diagramme les sources cellulaires. Quelle est la source cellulaire? En général, ce sont les cellules souches du mésenchyme, que l'on trouve où? En général, dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, il y a beaucoup de cellules, celles qui vont donner lieu au système hématopoïétique, et d'autres cellules qui peuvent donner naissance à de l'os, à du cartilage, à des ligaments, à des ténocytes que vous voyez ici. Donc à partir de ces cellules souches du mésenchyme, on peut avoir donc des matériaux comme de l'os, du cartilage ou du ligament. Et puis, vous allez voir ce qu'on en fait. Alors récemment, on a justement publié ça, Hervé Petit au laboratoire a envoyé un papier dans Nature Biotechnology qui est sorti la semaine dernière. Donc, ça, je vous parle un peu de ça, c'est vraiment d'actualité. Alors, je vous montre aussi à quoi ça sert. Alors, ça sert, par exemple, à ça. Là, vous avez, ça, c'est le fémur d'une femme qui avait un cancer des os, un cancer du fémur. Donc, on est obligé, dans ces cas-là, de lui retirer son os. Et ensuite, à moins de l'amputer, il faut lui remettre quelque chose. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'allogreffe. Donc, on met un fémur prélevé sur un cadavre, stérile. ou bien un autre exemple d'une tumeur qui est remplacée comme ceci par un os du bassin avec cette fois une prothèse. Ou bien encore une tumeur de l'extrémité inférieure du fémur remplacée cette fois uniquement par une prothèse métallique pure. Bon, ça, ce sont les techniques, si vous voulez, d'aujourd'hui, mais qu'on espère ne pas être les techniques de demain, car, parce qu'elles ne donnent pas tout à fait satisfaction. Donc, quelle est cette expérimentation ? Ben voilà un petit peu, c'est un petit peu trop détaillé, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais vous expliquer. Bon, ça veut être un mouton. Hein, ça ne ressemble pas trop, mais ça ressemble un peu. Alors, on lui prend de la moelle au mouton, on prend sa moelle, qu'on va cultiver. Donc ça, c'est une boîte de culture cellulaire, on cultive la moelle. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prendre un implant corallien, on va associer les deux, une fois qu'on aura cultivé sa moelle, et on va implanter dans une paire de substances d'un de ses os, hein, qui est en fait son premier métatarsien, on va lui implanter soit le corail seul, soit la moelle seule, soit la moelle plus le corail. Bon. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est que le contrôle ? Si on fait ce dégât sur un mouton, on lui enlève 2,5 cm d'os, on met une plaque, eh bien, 16 semaines plus tard, il n'y a pas d'os du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle de pseudarthrose, c'est-à-dire de non-consolidation. Alors, maintenant, si on lui met seulement du corail, voilà ce que ça donne, à 4 semaines, on voit que le corail est assez bien unifié. Il est là, le corail, hein. Ça, c'est un bout de corail, donc il est bien unifié. Mais à 16 semaines, eh bien, il a tendance à disparaître, et il reste vaguement un petit reliquat osseux. Ça veut dire que le corail a été résorbé par l'os naturel et il a pratiquement disparu, donc il n'a pas vraiment rendu service. Lorsque maintenant on met du corail plus de la moelle fraîche, donc on prend la moelle du mouton et fraîche, enfin de façon immédiate, et on met en même temps corail plus moelle fraîche, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est encore plus spectaculaire parce que le corail, vous voyez, il disparaît encore plus vite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de corail au bout de 4 semaines. Comment on interprète ça ? On interprète que la moelle fraîche comporte non seulement des cellules qui vont faire de l'os, mais comporte aussi des cellules qui vont détruire l'os. Donc, c'est pour ça que ça détruit aussi le corail et qu'il n'y a plus de corail du tout. Alors, ce qu'a montré Hervé, c'est que lorsque, cette fois, on met du corail plus des cellules de moelle, mais qu'on a cultivées pendant quelques semaines, donc là, on les a triées, et on a trouvé ce qu'on appelle les ostéoprogéniteurs, c'est-à-dire les cellules qui vont faire vraiment de l'os. Alors là, c'est totalement différent. Avec à 4 semaines, on a toujours notre corail plutôt bien, mais à 16 semaines, alors cette fois, c'est formidable parce qu'on a vraiment reconstitué totalement l'os. Et ça, c'est tout à fait reproductible. Donc, on est vraiment content de ces résultats et on espère un jour, dans pas trop longtemps, un ou deux ans peut-être, appliquer ces résultats à l'homme, donc arriver à reconstruire comme ça des grandes paires de substances. Bon, je passe un peu parce que le temps passe, mais je voulais vous montrer en histologie ce que ça donne. Là, cette fois, ce sont sur des coupes histologiques et pas seulement sur des radiographies. Donc là, c'est la même chose. Quand vous avez le contrôle, ben, c'est une pseudarthrose, on ne voit rien. Et vous avez là du corail plus des cellules souches. Et là, vous avez une très belle reconstruction de l'os. Alors, pour terminer, on va parler un petit peu d'autres aspects. Donc là, je vous ai pris des exemples. On pourrait parler de la même façon évidemment des biomatériaux vasculaires, urinaires, oculaires ou autres. Hein, c'est pareil, c'est les mêmes principes, ce sont des produits différents avec souvent une thématique et évidemment un objectif différent. Mais tous ces biomatériaux sont aussi rassemblés sous d'autres aspects. Il y a l'aspect réglementaire. Il faut savoir qu'actuellement, tous ces produits doivent subir un marquage CE, ben c'est des communautés européennes, par un organisme notifié, donc il peut donner et attribuer ce marquage, et ceci est obtenu après des tests sur banc d'essai, in vitro, in vivo, puis après passage à l'homme. Alors, le passage à l'homme ne se fait pas comme ça. Maintenant, il faut appliquer ce qu'on appelle la loi Hurier, c'est-à-dire qu'il faut demander un consentement éclairé au patient, lui expliquer qu'il va entrer dans un protocole de type loi Hurier, donc il peut refuser d'entrer dans le protocole, bien entendu, et il signe d'ailleurs qu'à ce moment-là, on le traitera quand même de la même façon, on ne va pas lui faire des pires sévices parce qu'il a refusé d'entrer dans le protocole. Donc, il a parfaitement le droit de ne pas adhérer. Puis, un jour, il y aura commercialisation du produit. Mais ça ne suffit pas. Il y a ensuite une procédure qualité. Et puis, il y a un suivi. Il y a ce qu'on appelle la matériovigilance. C'est-à-dire qu'actuellement, on est tenu, lorsqu'on y a un accident, lorsqu'il se passe quelque chose sur un de ces produits, de le signaler. Ça remonte au ministère de la Santé, selon la procédure, donc maintenant tout à fait normale de la matériovigilance. Alors, sur le plan industriel, il faut savoir qu'il y a le rôle de différents intervenants. Je vais un peu parler de ça parce que je trouve ça aussi intéressant. faut savoir qu'il y a les avocats, il y a les médecins, les industriels, enfin, qui jouent un certain rôle. Alors, je prends l'exemple souvent des prothèses mammaires. Mais c'est pas mon domaine, mais je connais un petit peu. Vous savez qu'il y a eu une histoire, un scandale, disons, des prothèses mammaires qu'on a accusé de donner des maladies de type collagénose, des maladies très graves qui entraînaient les pires troubles. En fait, ça n'a jamais été prouvé. Et ça a été simplement quelque chose qui a été lancé par des avocats. Enfin, aux États-Unis, les avocats sont rémunérés sur les commissions qui touchent après. Enfin bon, donc c'était lancé par des avocats, mais la société qui fabriquait les implants mammaires aux États-Unis a fait faillite. C'est-à-dire qu'elle a été obligée vraiment de fermer boutique tellement elle a été obligée de verser des dommages et intérêts conséquents. Alors que maintenant, il est prouvé que ces implants mammaires, en fait, ne donnaient pas lieu à ces accidents-là. Ça donnait lieu parfois à des calcifications locales, mais ça ne donnait pas lieu à toutes ces maladies que l'on avait évoquées. Alors, le rôle des chercheurs, il est très important parce qu'il faut absolument maintenir un haut niveau scientifique dans ce domaine. Il faut absolument valider les procédures et les tests. Il faut effectuer des comparaisons qui sont indépendantes des lobbies, de tous les lobbies que j'évoquais au préalable. Et donc, il est absolument essentiel d'avoir une recherche indépendante. Donc, c'est essentiel que ces recherches soient faites dans les organismes publics comme l'INSERM ou le CNRS. Et ce n'est pas assez fait, malheureusement. Alors, en France, il y a un certain nombre de problèmes. On a du mal à organiser l'interdisciplinarité. On est tous des descendants d'Auguste Comte avec une stratification très forte des disciplines, et c'est dommage. Il y a peu de structures dédiées à cette recherche sur les biomatériaux. Et il y a des financements aussi qui sont particuliers. Par exemple, il y a une perversité du budget global hospitalier. C'est peut-être pas le sujet ici, mais pour expliquer quand même que lorsque vous faites mettre une prothèse dans un hôpital public, ça passe au budget global. Donc l'intérêt de l'hôpital, c'est de ne pas vous mettre de prothèse, puisqu'à chaque fois, ça va lui coûter quelque chose. Alors que c'est différent si vous allez dans un système privé, où au contraire, le budget de la prothèse est pris en charge directement par la Sécurité sociale. Donc là, la Sécurité sociale ne regarde pas. D'accord ? Donc c'est totalement différent comme système de financement. Et on nous demande sans arrêt combien allez-vous mettre de prothèses cette année. Non, cette année, vous n'aurez droit qu'à tant de prothèses, donc moins que l'année dernière. Il faut se bagarrer quand même un petit peu. Donc c'est un domaine, je dirais... Alors le TIPS, qu'est-ce que c'est ? C'est le tarif... interprofessionnel des prestations sanitaires, c'est-à-dire qu'il fixe un plafond aux produits que l'on va mettre en place. Alors il faut savoir que c'est assez limitant et que ça peut aussi, si le plafond est trop bas, eh bien les industriels n'ont plus intérêt à fabriquer le produit et il y a comme ça, c'est comme le problème des médicaments orphelins, vous avez peut-être entendu parler de ça, il n'y a plus d'intérêt à fabriquer le produit et donc on n'a plus de prothèses. C'est en ce moment ce qui se passe avec des prothèses de cheville, par exemple, qui sont assez rarement posées mais qui rendent quand même de grands services, eh bien elles ne sont plus fabriquées parce qu'elles ne sont pas remboursées suffisamment cher. Donc c'est un domaine que je dirais administré et pas géré. Alors aux USA, c'est un peu différent. Il y a aussi de grands pouvoirs, il y a le pouvoir des avocats, il y a le pouvoir des industriels qui souvent assurent la formation des chirurgiens, ce qui est extrêmement pervers aussi, ce qui n'est pas le cas en France, heureusement. Il y a un protectionnisme qui est très fort et qui fait que souvent les personnes aux États-Unis croient que c'est aux États-Unis qu'on est le mieux soigné, mais ce n'est pas toujours aussi vrai que ça. Enfin, en Europe, c'est pas mal. Donc, je conclurai sur quelques points. Dire que c'est un domaine de très haute technicité, de haute responsabilité, en forte progression, et qui nécessite des acteurs indépendants qui sont motivés essentiellement par l'amélioration des soins et aussi des problèmes de rapport coût-efficacité. Voilà, je vous remercie.
Était en général découvert de façon empirique, ou bien on pouvait prévoir leurs avantages et leurs inconvénients.
Ils ont souvent été. Attends, je vais peut-être te faire. Ils ont souvent été, au départ, ils ont été prévus de façon un peu empirique, et ça remonte à, disons, une centaine d'années. Il y avait tout de même une certaine idée derrière. Je pense aux premiers qui ont mis des prothèses de hanche en ivoire, par exemple. Bon, il y avait tout de même une idée que l'ivoire étant à partir d'un élément naturel, ça devait se comporter correctement. Voilà. Mais enfin, il y a peu, si vous voulez, de recherches finalisées d'amont. C'est en général quand même des essais, erreurs qui font progresser petit à petit et on finit par pouvoir progressivement formaliser et connaître certaines lois de comportement. Mais c'est un domaine encore un peu balbutiant à ce niveau-là.
En haut, ici en bas. Allez, on viendra.
Oui, bonjour monsieur. Je pensais à une chose. Le gars qui courait avec sa prothèse, c'est très bien. Mais quand un os se casse, on met une prothèse. Mais que fait-on quand une prothèse se casse? Je pense à un gars qui, au lieu de courir, enfin qui courant à l'entraînement, finit sa carrière sportive comme goal. Le pauvre, il va tomber. Qu'est-ce qui se passe quand sa prothèse se casse?
Alors actuellement, les fractures de prothèse, c'est quand même quelque chose de très très rare, parce que ça a pu être bien testé. Par exemple, sur les tiges fémorales en acier, en métal, on n'a pas vu de fractures depuis une dizaine d'années. Alors on voit encore des fractures sur les prothèses qui étaient mises avant, ou certaines prothèses en acier. Enfin, c'est un phénomène vraiment très très rare. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, là, on doit les réopérer. Hein, voilà. Donc on les réopère et on sait faire quand même. Mais c'est vrai que ce sont des opérations un peu plus lourdes, un peu plus compliquées. Quoi. On sait le faire. Et après, ils retrouvent à nouveau une capacité à nouveau importante.
Monsieur.
Bonjour, monsieur. C'est moi. Vous avez parlé des prothèses qui sont effectivement fixes, en tout cas pas rigides sur l'aspect. Et est-ce qu'on sait faire maintenant des prothèses, j'allais dire, molles, quoi. Enfin, je ne sais pas, je pense au cœur, ou est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus ou pas? Voilà. Merci.
Oui, j'ai pas pu. Enfin, je préférais détailler sur un domaine. Et, bon, j'aurais pas pu parce que je suis pas spécialiste du domaine. Vous auriez demandé à Loisance ou à quelqu'un d'autre, il aurait pu vous expliquer ce que c'était que les prothèses de cœur et les matériaux souples. Alors, c'est une autre thématique, mais c'est faisable aussi. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent actuellement là-dessus avec des matériaux particuliers, souvent des matériaux renforcés au carbone, qui arrivent à se déformer de façon très importante. Et pendant de très nombreux cycles. Donc, je dirais oui, ça existe, bien sûr. Oui.
Madame,
là-haut. J'ai deux questions à vous poser. La première, quel genre de prothèse fait-on dans le cas d'ostéoporose?
Oui.
Et la deuxième question, le corail, on utilise beaucoup de corail pour faire des prothèses dans le cas des mâchoires. Et comment fait-on ça? Puisque vous me dites que l'os se refait difficilement. On arrive à le faire.
On peut tout faire. Il faut savoir après si ça marche. Bon, vous savez, on fait beaucoup de choses. Alors je vais essayer de répondre à vos deux questions. L'ostéoporose n'est pas traitée par des prothèses. Hein. C'est d'ailleurs un peu contradictoire. Les gens qui font de l'ostéoporose, généralement, n'ont pas d'arthrose. C'est assez particulier. Et inversement, d'ailleurs. Alors, c'est pas le traitement de l'ostéoporose. Quoi. Le traitement de l'ostéoporose, ça fait appel à beaucoup de choses, mais surtout à l'exercice physique. Parce que ce que je vous ai raconté, c'est que l'os se comportait comme un capteur de mécanique. Si vous le stressez, l'os, eh bien, il va plutôt grossir. Donc c'est un bon traitement de l'ostéoporose, c'est d'avoir de l'activité physique. Voilà. Alors maintenant, dans les mâchoires, oui, on met du corail, effectivement, mais ça sert surtout à augmenter l'os de façon à pouvoir implanter des produits. Ça a pu se faire. On n'est pas tout à fait sûr que scientifiquement, ça soit absolument prouvé. Voilà. Mais ça se fait beaucoup.
Oui. Nous allons en haut, madame.
Bonsoir, monsieur. Pourquoi le corail et la nacre sont les produits qui produisent les meilleures prothèses? Est-ce que leur composition est identique à celle de l'os, s'il vous plaît? Merci.
Alors, non, elles ne sont pas... Alors, d'abord, attendez... D'abord, elles ne font pas des prothèses. Hein. Là, je parlais de remplacement osseux. On ne fait pas des prothèses en corail ou en nacre. Hein. Ça, c'est la première chose. D'accord ? On se sert simplement de ces matériaux, éventuellement pour remplacer de l'os. Alors, ce qu'elles ont comme caractéristique, d'abord, elles n'ont pas la composition de l'os. Ce sont des carbonates de calcium. L'os, c'est du phosphate de calcium. Donc, c'est deux produits différents, hein. Mais tout de même un peu similaires, effectivement. Ce qui est surtout intéressant dans ces deux produits, ce sont les caractéristiques mécaniques. J'essayais de vous le montrer sur un tableau. Elles ont toutes les deux, le corail pour une certaine raison, la nacre pour d'autres raisons. La nacre est encore beaucoup plus résistante d'ailleurs que le corail, par sa structure même. Elles ont vraiment des caractéristiques mécaniques très très intéressantes. Alors après, l'acceptation par l'organisme vivant humain de ces produits, c'est un peu variable. Il ne faut pas retenir trop de ce que je raconte, corail ou nacre. Il faut retenir culture de cellules sur un support. J'essaye d'être clair parce que lorsqu'on a mis du corail sur l'individu, comme vous avez pu le voir d'ailleurs en expérimentation aussi, ça n'a pas toujours été un succès. Ça a parfois été un succès, ça a parfois été un échec avec rejet du produit et finalement ça n'a pas vraiment répondu à ce qu'on attendait. Voilà, donc ce n'est pas aussi magnifique et magique qu'on voudrait. On aimerait que ça soit, mais ça n'est pas.
Monsieur qui demandait la parole.
Deux petites questions. Vous avez parlé tout à l'heure d'une prothèse à un jeune de 16 ans, je crois. Et ma première question, c'est à 16 ans, on n'a pas terminé sa croissance. Donc, comment est-ce que se comporte la prothèse dans un environnement qui va continuer à se modifier et à grandir? La deuxième petite question, prolongée, et celle de madame, et un peu votre réponse. Vous avez parlé de la nacre, vous disiez que la nacre, c'est encore plus solide. Est-ce que la nacre, c'est quelque chose qu'on trouve en quantité illimitée pour ce genre, enfin en quantité très grande, si c'est un produit prometteur à l'usage médical?
Alors pour l'enfant, effectivement, on est amené parfois, il faut bien se comprendre, je ne vous en ai pas parlé avant, mais cet enfant était évidemment, ne marchait plus, hein, il était pratiquement en fauteuil roulant, enfin il marchait sur un pied, il ne pouvait plus du tout courir, enfin, il avait une maladie très grave de la hanche. Alors lorsqu'on opère des gens qui ont encore une certaine capacité de croissance, à 16 ans on n'a plus une très grande capacité de croissance, mais tout ça on le sait très bien, on a des tables, des abacs, on travaille avec nos collègues pédiatres, hein, qui savent très très bien prévoir la taille. Donc on prévoit nous aussi la taille, c'est-à-dire qu'on prévoit la taille de la prothèse en fonction de ce qui va encore grandir de l'autre côté, d'accord ? Et donc on ajuste sous ceci pour qu'en fin de croissance, il y ait au maximum 5 mm d'écart entre les deux jambes. Donc ça, on sait très bien le faire, et non, c'est une bonne question, mais on y avait pensé, oui. Alors maintenant sur la nacre... La nacre, on peut en trouver en très grande quantité. Il y a certains coquillages qui sont très grands. On a ici, je crois, dans la salle un spécialiste de ça. Je ne me rappelle plus exactement le nom de ce coquillage des mers chaudes et qui permet d'avoir des quantités assez importantes. Je sais qu'on peut en faire des vis, actuellement. Vous voyez la taille d'une vis. On peut faire des produits de cette taille-là. Le problème, c'est actuellement testé. Hein. Il y a des équipes, en particulier en Martinique, qui travaillent là-dessus de façon expérimentale. C'est pas encore vraiment rentré dans la pratique, quoi. Voilà.
Monsieur. Sinon, ah non, bon, alors, allez-y.
J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, si dans le cadre du remplacement osseux du corail avec les cellules de moelle et mise en culture et la sélection, s'il faut prévoir la revascularisation du système. C'est quand la nécrose a pu être consécutive, par exemple, au fait que les vaisseaux alimentants étaient obstrués, des choses comme ça. Est-ce que ça pose un problème particulier ou...
Oui, c'est une bonne question. Il y a des équipes d'ailleurs qui travaillent sur l'implantation de vaisseaux dans ces produits artificiels. Et, bon, il faut qu'il y ait un apport de cellules. Alors, les cellules peuvent venir par des vaisseaux, elles peuvent venir par des cultures. Et il semble qu'une fois que ça se soit bien passé, enfin la relation entre le matériau support et la culture cellulaire se soit bien passée, les vaisseaux arrivent aussi. Hein, parce qu'il y a à ce moment-là des facteurs d'angiogénèse qui font en sorte que les vaisseaux, des néo-vaisseaux, des nouveaux vaisseaux arrivent. Donc ce problème des vaisseaux n'apparaît pas essentiel. C'est plutôt les cellules et le support qui jouent un rôle essentiel, semble-t-il.
Madame.
Je suis là.
Oui, là.
Bonjour. Je voulais demander à propos de l'implantation donc d'un biomatériau à l'intérieur de l'organisme humain. Est-ce que avant cette implantation et pendant l'implantation, pendant la durée de d'existence de cette implantation, est-ce qu'il y a un système anti-rejet ? Parce qu'on est tout de même en présence d'un corps étranger à l'organisme humain. Alors est-ce que le patient doit subir un traitement qui évite le rejet de ce biomatériau ?
Non, pas du tout. Les biomatériaux généralement employés ne mettent pas en œuvre le système immunitaire. Sinon, ces produits ne sont pas choisis comme biomatériaux. Donc tous les produits que l'on utilise justement sont sélectionnés sur le fait qu'ils ne donnent pas de réaction immunitaire. S'ils doivent donner des réactions immunitaires de type allergique, eh bien, on n'utilise pas ce type de produit. Donc il y a pas de, c'est pas du tout comme dans la greffe de rein ou la greffe de foie où le sujet devra subir un traitement souvent très très lourd, ou la greffe de membre supérieur, bon, il va subir un traitement très très lourd et très souvent très iatrogène, enfin qui peut développer des maladies. Hein, et ça c'est pas du tout le cas dans les biomatériaux.
Ils ont été choisis en fonction.
Ils ont été choisis en fonction de leur innocuité justement, en fonction de leur rejet, innocuité, okay. Enfin putative. On pense que c'est qu'ils ont une innocuité. Des fois, on peut se tromper.
Monsieur.
Monsieur,
Allez-y, allez-y.
Monsieur le professeur, vous nous avez expliqué, si j'ai bien compris, que le corail n'est pas une prothèse, mais finalement un bouche-trou.
Oui.
Et ensuite, ça va permettre à l'os de se reconstituer. Ceci dit, si on a parlé de ces matériaux divers comme le corail, mais on n'a pas abordé, peut-être parce que ça ne peut pas se faire, ce n'est pas compatible, mais c'est une question que je me pose, pourquoi n'utiliserait-on pas pour ces bouches-trous des os d'animaux, comme des os, par exemple, de cochons? Nous avons, dans les prothèses molles, on a bien, à un moment donné, je ne sais pas si ça se fait encore, fait des valves de cochons qui marchent. Donc, la question que je me pose, pourquoi ne peut-on pas utiliser pour ces bouches-trous des os d'animaux?
Oui, c'est une très bonne question. C'est utilisé, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, ou je ne sais plus sur une de mes diapos si ça apparaissait. Non, c'est utilisé, mais c'est ce qu'on appelle l'os de Kiel. Enfin, ça a été beaucoup utilisé il y a une trentaine d'années. Mais ça ne, tout de même, c'était soumis à un rejet souvent très, très rapide. C'était assez mal toléré, quoi. Donc, on se rend compte maintenant que ce qui est le mieux toléré, quand même, c'est l'os humain. Et c'est pour ça qu'on prend des donneurs décédés sur lesquels on prélève des os de façon stérile. Et c'est quand même ce qui donne les meilleurs résultats actuellement. Quoi que ce soit pas, c'est loin d'être parfait quand même. Hein. C'est aussi assez souvent rejeté parce que infection, enfin pour différentes raisons. C'est pas idéal. Quoi.
Monsieur, ici.
Voilà. Et qu'en est-il actuellement des prothèses ligamentaires en carbone du genou?
Ah oui, alors, il y a eu beaucoup de produits qui ont été utilisés pour tenter de remplacer les ligaments du genou. Hein. Alors, les prothèses en carbone, ce n'était pas vraiment des prothèses, c'était ce qu'on appelle des scaffolds en anglais, ça se traduit par échalas ou des guides de repousse, si vous voulez. Ces produits sont actuellement plutôt en voie de disparition, c'est-à-dire qu'on s'en sert de moins en moins, et que maintenant la tendance actuelle, c'est de ne pas utiliser de prothèses pour remplacer les ligaments du genou, mais de prendre sur l'individu lui-même un tendon qui va remplacer ce ligament. Voilà. Mais ça a été beaucoup utilisé il y a une vingtaine d'années, avec des succès mitigés, voilà, je dirais. Je ne citerai pas de nom. Quoi. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont attaché leur nom à ça. Pas moi, de toute façon. Enfin, bon, disons que j'ai peut-être eu de la chance, mais moi, je n'ai pas utilisé ça.
Bon, on va prendre encore une ou deux questions, madame, puis j'envoie une autre là-haut. Allez-y, juste devant.
Bonjour, professeur. Ma question, vous avez parlé de différentes associations de couples de matériaux, alumine-alumine, céramique-céramique, en indiquant vos exemples et en disant que ça avait été utilisé dans ces exemples, notamment pour des jeunes ou pour des personnes de 38 ans, 16 ans, 18 ans, etc. Est-ce que le choix du matériau actuellement utilisé, compte tenu du coût, a été fait compte tenu du coût parce que ces matériaux et l'utilisation de ce matériau est relativement cher par rapport à ce que vous indiquez comme l'association métal-polyéthylène qui, par ailleurs, émet un certain nombre de débris, mais qui peut-être a moins de raisons de ne pas être utilisée parce que l'opération serait moins chère, la prothèse est moins chère. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est tout à fait...
J'ai essayé de conclure sur le rapport coût-efficacité. Oui, c'est un peu le cas. On peut pas dire non plus parce qu'il faut quand même savoir, il faut être rationnel, il faut savoir que plus on avance en âge, plus l'espérance de vie diminue. Hein. Et qu'on peut, ça se calcule tout ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien prévoir passer 75 ans, compte tenu de l'espérance de vie qui nous reste, compte tenu aussi de la diminution de l'activité, parce que tout ceci est extrêmement mécanique, et compte tenu aussi des statistiques que l'on a sur les prothèses métal polyéthylène, on sait que passé 75 ans, les résultats sont très bons. Très très bons. C'est-à-dire que les personnes ont beaucoup plus de chances de mourir avec leur prothèse sans avoir jamais été réopérées que d'avoir un ennui. Par contre, plus jeunes, on sait que c'est le contraire, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup de risques d'être réopérés de leur prothèse très tôt. Donc effectivement, on va tenir compte de ça. Alors, on tient compte, bon, on n'est pas, c'est pas l'aspect économique qui domine, c'est l'aspect technique. Simplement, quand on voit des personnes de 85 ou 90 ans qui ont des prothèses très chères, on trouve que ça n'a aucune utilité.
Alors non seulement ça n'a aucune utilité, mais c'est peut-être aussi nocif, parce que comme c'est très rigide, je ne vous ai pas parlé de tous les détails, mais ces matériaux en aluminium sont très, très durs, très rigides, il est possible que l'os ostéoporotique de cet âge-là ne supporte pas bien. Donc en fait, tout ceci mis en balance fait que, enfin dans mon service, on fait comme ça. Il y a des gens qui ont un couple métal-polyéthylène, passé un certain âge, sinon ils ont un couple alumine-alumine, quoi. Mais j'espère qu'ils le prennent pas mal. Enfin, on leur explique, on essaie de leur expliquer le plus clairement possible. J'avoue que ce n'est pas très facile à expliquer.
On va prendre une dernière question, madame.
Oui, bonsoir. Je suis arrivée un petit peu en retard. Vous avez peut-être déjà répondu. Je voudrais savoir, pour faire suite un peu à la question de madame, quel recul on a aujourd'hui sur les rejets par rapport à ces biomatériaux et quels sont les endroits où sont pratiquées ces opérations en France ou à Paris spécifiquement, et voilà. Est-ce que dès aujourd'hui, on peut déjà les utiliser en toute tranquillité?
Vous parlez de quel biomatériau là? J'ai pas...
Un petit peu pour toutes les prothèses, en fait.
Oh non, mais c'est ces prothèses, enfin, attendez, les prothèses de hanches, de genoux, les valves cardiaques, c'est utilisé partout. Hein. Vous allez dans n'importe quel service de chirurgie. C'est posé, donc il n'y a pas de... Alors maintenant, il y a quelques services qui sont plus proches de la recherche où on est peut-être un tout petit peu en avance, voilà, mais c'est... les produits sont dans le commerce, quoi, voilà, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire de se faire mettre une prothèse de hanche.
Bien, bon, on va en rester là. Je vous remercie.